RMC, les grandes gueules.
Avant de parler de votre livre, bonjour Raphaël Enthoven.
Bonjour Alain.
Est-ce que hier vous avez bondi de joie en entendant le calendrier de lever des restrictions tel qu'il a été présenté par Jean Castex et Olivier Véran?
Je n'ai pas écouté la conférence de presse d'hier, donc je suis désolé de vous le dire, mais j'imagine que j'aurais été ravi d'apprendre qu'elles seront levées bientôt. Ouais. Voilà.
2 février, fin des jauges, télétravail obligatoire, du masque en extérieur, et puis ensuite 16 février, réouverture des discothèques. La consommation debout au comptoir sera de nouveau autorisée.
C'est pas mal pour une dictature. Ça s'arrange, non?
Ah ben ça y est.
Non,
c'est Raphaël Enthoven de Twitter que je reconnais tout de suite.
Je m'en réjouis.
Ouais, mais on n'était pas dans
la vaccination de lundi, c'est pas.
On parlera de ce pays, de cet anima. On n'était pas tombé un peu en absurdistan quand même là.
C'est inévitable l'absurdistan quand la bureaucratie doit faire régner une loi qui est la même pour tous et les situations sont différentes, sont singulières. On a toujours en cas de disposition légale ou de mesures coercitives des tas d'exemples absurdes, des tas de moments où on se dit mais enfin ça n'a aucun sens. Sauf que la loi doit être la même pour tous, la bureaucratie est ce qu'elle est. Ce qui n'était pas absurde, à mon sens en tout cas, c'était de produire, mais ça on en a déjà souvent parlé tous, des restrictions de liberté en période de pandémie. Quand des tas de gens meurent, les restrictions de liberté me paraissaient davantage des conditions de la liberté, dans la mesure où elles étaient temporaires, que des restrictions objectives. Voilà.
Et
je suis ravi qu'elles se lèvent.
Et ce passe vaccinal, qu'en dites-vous?
Moi, j'ai toujours été favorable au pass vaccinal. Donc, j'ai toujours considéré que, encore
Il
une fois.
Ils ne catégorisent pas les Français.
Les Français se catégorisent d'eux-mêmes. Il n'y a pas deux camps, en la circonstance, me semble-t-il. Il y a vraiment un camp rationnel et un camp qui ne l'est pas. Et puis, surtout, il y a un camp dangereux. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui saturent les hôpitaux, à cause de qui les hôpitaux sont saturés. Et puis, il y a des gens à qui il ne suffit pas de dire que 90% des patients en réa sont pas vaccinés, si vous voulez. Et, alors, en soi, c'est pas un délit de pas comprendre ça. Le problème, c'est quand ça devient dangereux. Moi, c'est la raison pour laquelle, quand on n'arrive plus à convaincre, il faut un peu contraindre. Voilà, c'était mon raisonnement.
Oui, mais justement, on se suit sur Twitter depuis un moment.
Oui,
moi, je
plaisir,
vous dis, et vous êtes très actif. Mais je vous sens très violent sur Twitter contre les non-vaccinés.
Non, c'est les antivax, pas les non-vaccinés. C'est pas pareil.
Vous avez raison sur les antivax. Comment un philosophe n'arrive-t-il pas à trouver un petit peu de compréhension pour les antivax?
Je ne demande que ça, je la cherche indéfiniment. La vérité, en fait, j'ai commis une erreur. J'ai dit que les antivax étaient tous des cons ou des monstres. Et en réalité, l'honnêteté commande de dire que j'ai pris mon expérience pour une généralité. C'était pas une insulte, c'était un constat. Je n'ai jamais rencontré d'antivax qui ne soit ni sous-informé, ni complotiste, ni naïf, ni parfois antisémite, ni violent, ni mort, ni cynique pour le pire. Donc, j'en ai pas rencontré. Ça doit exister. Mon erreur, la faute a été l'induction qui me faisait passer de mon expérience individuelle à un cas général, à une théorie générale. Donc, ça, c'était mon erreur. Mais pour le reste, on est en présence d'un cas de figure, me semble-t-il, où, pardon, mais la bêtise est dangereuse. En elle-même, elle n'est pas délictueuse. Ici, elle est dangereuse. Il y a des gens qui meurent à cause de gens qui ont une définition si étroite de leur liberté qu'elle leur donne le sentiment qu'ils peuvent contaminer les autres avec ça. Voilà.
Peut-être qu'il y a des gens qui meurent parce que l'hôpital, on ne fait pas en sorte qu'ils puissent absorber le 0,05% de malades du Covid qui finissent en réanimation. Donc la question, on peut accepter de regarder soit par ce bout-là qui est mon bout à moi, qui est effectivement la question des moyens de l'hôpital qui a été détruit pendant 20 ans, ou bien décider effectivement de conspuer, de pointer du doigt et de stigmatiser une partie des non-vaccinés. Je suis d'accord avec vous, il y a une grande partie des antivax qui sont des manipulateurs, qui sont des complotistes, qui sont des gens dangereux. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas tous les non-vaccinés. Et il y a une grande partie même
encore
des antivax.
Encore une fois, je parle pas des non-vaccinés.
Il y a même une partie des antivax. Je pense que la façon dont les choses pourraient leur être présentées s'ils ne vivaient pas dans leur bulle cognitive des réseaux sociaux dans laquelle tout le monde a l'air de vivre. Je ne suis pas sur Twitter, donc je ne vis pas dans ma bulle à moi. Mais si je vivais sur Twitter, je pense que je ne serais alimentée que par des gens qui pensent comme moi. J'aurais donc une vision très déformée des choses.
Cher Barbara, il ne suffit pas de ne pas être sur Twitter pour ne pas être dans une bulle. Vous pouvez être dans une bulle sans être sur les réseaux sociaux, même si ça aide.
Ça aide de ne pas y être.
Même si ça aide. Maintenant, ce que je dis n'est pas exclusif d'un diagnostic terrible, peut-être à faire, je ne suis pas compétent, sur l'hôpital, sur les moyens de l'hôpital, sur le nombre de lits disponibles, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi pas? Faisons-le, oui, bien sûr. Mais cela ne dissout pas la responsabilité de celui qui prend la responsabilité non seulement de ne pas se vacciner, mais d'être prosélyte avec ça. C'est tout ce que je dis.
Prosélyte, on est à 92% de vaccinés en France. Oui. Bonjour le prosélytisme.
Mais
on en a
le prosélytisme, le prosélytisme a des conséquences, a des effets. Il y a des gens qui sont morts de les avoir crus, tout simplement.
C'est vrai.
Pardon, ça suffit, ça me suffit comme effet, pardon.
David Dickens.
Ce qui est assez singulier, c'est que le sentiment que l'on a à votre égard est assez assez partagé. Vous dites dans ce bouquin, dont je dois dire que je l'ai adoré véritablement.
Merveilleux.
Vraiment, c'est jubilatoire, c'est parfois très drôle et c'est profond. La forme est singulière. J'invite tous nos auditeurs et téléspectateurs à lire ce livre. Pour autant.
Voilà le mais.
Vous dites que la vérité dans nos sociétés aujourd'hui, la vérité est sacrifiée sur l'autel de la volonté d'avoir raison. Vous dites que cela nous fait vivre dans une société où il est périlleux de dire ce à quoi l'on croit plutôt que de dire ce qu'on a envie d'entendre. On va jusqu'à approuver la violence parce qu'elle va dans le sens de ce que l'on désire et on impute à celui qui en est la victime. Donc vous faites ce constat-là. Et là, vous êtes dans votre rôle de philosophe. Par contre, et c'est ce que disait Fred aussi, je crois, à l'égard des non-vaccinés, moi je l'ai ressenti à l'égard, par exemple, de Rokhaya Diallo, avec laquelle il y avait pendant un moment une espèce d'obsession de Rokhaya qui vous répondiez tous les jours. Est-ce que le philosophe se doit de participer à cette mécanique qu'il fustige ou qu'il dénonce? Est-ce qu'il ne doit pas rester au-dessus, observer et restituer?
Alors, merci de cette super question. C'est une tension qui m'est propre, je dois dire, qui est la mienne.
Oui. Effectivement, ça, c'est vous, tout simplement.
J'ai toujours été partisan, pédagogue, partisan de pédagogie, je le dis devant Barbara, qui a plus longtemps enseigné que moi, mais enfin, j'ai toujours eu à cœur, j'ai toujours vécu comme une victoire la mutation d'un conflit en discussion. J'ai toujours essayé de produire ça et j'essaye humblement de le faire aussi en ligne, à ma manière, parfois très maladroitement. Ça, c'est le premier point. C'est vrai, c'est incontestable. C'est vraiment, sincèrement, c'est le Graal. J'ai l'impression de faire œuvre de liberté. Mon but n'est pas de défendre une opinion. Il est de défendre le droit qu'on a tous d'en avoir une et de l'élever au rang d'argument. J'ai l'impression de travailler à la liberté collective en faisant ça. Mais par ailleurs, j'adore me battre. J'adore me bagarrer et j'aime pas qu'on m'insulte. Donc, de fait, je ne répugne pas à l'affrontement. Et ça, c'est une tension, c'est très symptomatique, c'est mon problème, c'est un problème. Et je crois que c'est un des symptômes de l'époque, humblement, dans la mesure où, désormais, quand vous êtes rationnel, quand vous défendez la rationalité, eh ben, vous êtes contraint de vous constituer en camp, ce qui est contradictoire avec l'objet même que vous défendez. Et donc, vous êtes obligé, et donc ça vous fait appartenir à ces deux régimes. Le régime belliqueux de Twitter, de l'opinion, de la répartie, du machin, du truc, etc. Des coups qu'on prend, des coups qu'on envoie, des retweets, etc. Et le régime pédagogique d'une célébration de la dialectique. Et on trouve les deux.
Vous restez avec nous, Raphaël Enthoven, oui. Deuxième partie de la discussion dans un instant, où il sera quand même question du livre, question de Kaouter Ben Mohamed, bien sûr, aussi. Raphaël Enthoven est dans les GG, c'est notre témoin de la semaine, à tout de suite.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, on accueille aujourd'hui en fin de semaine Raphaël Enthoven avec ce livre Krasnaya. Alors, Raphaël Enthoven. Je vais résumer le livre. Après une catastrophe, Allez. La société s'est transformée en un anima, avec ses figures, ses chefs, ses opposants, ses codes. Vladimir le cheval, Douraka l'hirondelle, Dini à la taupe, Nathalie à la petite biche, Bianca à la belette avocate. On y croise les ordinaires, les albinos, les dogues, les blindistes. En fait, c'est notre société qui s'est organisée. Entre herbivores et carnivores, il y a le vivre ensemble, il y a les discuteurs. Mais en fait, grâce aux animaux, ça vous permet de parler de la France, de ses personnalités, de ses responsables politiques. Mais en toute liberté, grâce aux animaux, vous vous lâchez. Comme Orwell avec La Ferme des Animaux ou comme La Fontaine avec ses fables, quoi, en fait.
J'aimerais bien.
Merci, camarade. Non, merci, oui. Merci. Continuez à parler, s'il vous plaît. C'est l'inspiration.
Oui. Oui. Alors, oui, en un sens où, au sens où, comme chez La Fontaine, comme chez Orwell, dans La Ferme des Animaux, les animaux sont pas tout à fait des animaux, mais ce sont pas complètement des humains non plus. Les lions dans La Fontaine, c'est pas Louis XIV, non. C'est pas le roi. De la même manière, dans Orwell, le cochon, c'est pas simplement Staline, c'est pas simplement Trotsky, c'est aussi toute figure tyrannique. Et en fait, bien sûr, il y a on retrouve des échos de personnages qui sont familiers. C'était tellement amusant d'en tracer le portrait de temps en temps. Mais en même temps, ils vont bien au-delà, au sens où ce sont des figures démocratiques. Il y a le prudent, la racialiste, l'apprenti dictateur, l'enthousiaste, le partitionnaire, le démuniste, etc. Tout ça, ce sont des figures de la démocratie, de façon plus générale que des individus identifiables.
Ouais, alors, il y a d'ailleurs, le fémélisme.
Oui.
C'est le féminisme. Il y a l'albinisme.
Oui, alors l'albinisme, par exemple, c'est très intéressant. L'albinisme considère que la blancheur de la peau est une valeur en soi. est une valeur en soi et que les albinos font l'objet d'un martyr spécifique. Absolument. Et que pour cette raison-là, les albinos devraient être nantis de droits spécifiques. Le problème, c'est que pour assurer la coexistence entre les herbivores et les carnivores, le premier anima de Krasnaya a lui imposé l'idée d'une égalité absolue entre les animaux, entre les différents animaux, à l'exception des rongeurs qui sont dispensables et des humains qui sont un service public. Mais sinon, le point de départ, c'est ça. De sorte que la loi se voit soudain sommée d'accorder des privilèges alors qu'elle a toujours refusé de le faire, ce qui met la société en crise.
Et comment vous est venue l'idée de choisir les albinos?
Oui.
Ça va complètement à revers de ce que l'on vit ici, comme j'allais dire sujet de discrimination suprême.
Alors, je vais vous dire parce que, en fait, l'idée du livre m'est venue, indépendamment de la lecture de La Fontaine et d'Orwell, m'est venue de la découverte qu'à Tchernobyl, dans la zone d'exclusion autour de Pripyat, la radioactivité étant un danger moindre pour les animaux que l'humanité, eh ben, c'est une jungle. Ça prospère, ça prolifère, il y a des lions, des loups, des ours, des bisons, des lynx, c'est magnifique. Et il y a une très forte proportion d'animaux, alors avec trois pattes, quatre yeux, etc., etc. Et surtout, une très forte proportion d'animaux albinos. C'est là que j'avais tous les éléments d'une transposition. Une proportion minoritaire, mais large, une large minorité. C'était formidable.
Ouais, il y a un peu de virus aussi, enfin de la crise, parce que les animaux sont malades, ils meurent de diarrhée.
Oui, ils meurent de diarrhée, les pauvres.
Surtout les vieux.
Oui, surtout les vieux. Alors, non seulement surtout les vieux, le problème, c'est que comme la plupart des vieux sont des ordinaires et pas des albinos, du coup, les ordinaires font l'objet de soins spécifiques, ce qui vaut aux albinos de considérer que la maladie elle-même est animaliste. Parce que l'animalisme qui fait face au colorisme des albinos est une théorie qui considère que certains animaux sont voués par définition à commander et d'autres à obéir. Et c'est toute cette thèse-là, qui est en fait le fond de commerce de certains carnivores, et c'est cette thèse-là qu'il faut combattre pour instaurer la possibilité d'un vivre ensemble.
Kauter ?
Moi, j'ai été fascinée, j'ai malheureusement pas terminé le livre et je vais me pressé de terminer de le lire parce qu'en fait l'homme est un animal qui est censé être doué de raison et c'est un parallèle qui est déstabilisant et fascinant à la fois de notre société aujourd'hui, de tous ces mots et de la difficulté que nous avons de vivre ensemble, de trouver des règles qui sont communes alors qu'on a des modes de vie qui sont différents, notamment au départ avec les carnivores. Ces groupuscules, en fait, ces groupes d'animaux et de catégories de personnes aujourd'hui, même dans notre société, qui déstabilisent. Ça part quand même, parce que moi au départ les premières pages c'est mon Dieu, qui a mis le feu, pourquoi c'est pas les animaux, il y a pas eu d'éclair, etc. Enfin, j'étais dans l'intrigue au départ, c'était limite un roman policier au départ, il fallait trouver...
C'est un peu ça, oui.
Voilà, donc qui a mis le feu? Qui met le feu dans nos sociétés? Dans ce livre également? Pourquoi? Quel intérêt? Etc., etc. Donc c'est assez fascinant quand on fait un parallèle avec notre société d'aujourd'hui pour voir les tenants et les aboutissants. Donc d'abord, est-ce qu'il est réellement possible, moi je pose une question alors que je médite pour ça, d'être réellement tous égaux dans notre société aujourd'hui? Alors,
en fait, ce qui est intéressant, ce que j'essaie de pointer dans le livre, c'est le lien qu'on peut faire, à mon avis en tout cas, entre cette difficulté de vivre ensemble. C'est-à-dire, en fait, la difficulté de trouver un langage commun, des lieux communs, des références communes, la difficulté croissante de le faire, à l'ère où chacun considère que le respect est de sanctifier sa propre identité.
Exactement.
Et c'est tout le paradoxe, c'est que rien n'est moins propice au vivre ensemble qu'une modalité de l'inclusion qui se pense comme archi-hyper respectueuse. Et il y a là quelque chose qui est une tension spécifique. On ne vit pas ensemble dans un monde, par exemple, où on s'interdit de s'engueuler pour des raisons religieuses. Ce monde-là n'est pas un monde en paix. C'est un monde où l'on a mis les soucis sous le tapis. C'est un monde où toutes les haches ont beau être enterrées, elles sont là. Ce n'est pas un monde en paix. Un monde en paix est un monde où on peut s'engueuler. Et on ne peut s'engueuler que si l'on a un langage commun.
Mais justement,
c'est tout l'enjeu des discuteurs, voilà, dans le roman.
Qui sont les profs, quoi, en fait. Les enseignants, oui, les profs de philo, quoi. C'est...
On ne se refait pas, mais oui, voilà. Ce sont les pédagogues. C'est vrai que, par exemple, un prof de philo dans une classe, il est confronté à des désaccords. Il est confronté à des opinions qui sont divergentes et qui se présentent d'abord comme antagoniste. Son travail, encore une fois, n'est pas de faire prévaloir une opinion sur une autre, c'est de faire comprendre aux deux protagonistes que si leur vérité s'oppose, c'est que peut-être elles sont complémentaires, en tout cas elles ne se valent pas, mais elles méritent le même respect.
Et Éric Zemmour est le symptôme de quoi dans une société comme les Anima ou notre pays alors ?
C'est ce que, alors là, pour le coup, moi, je suis plutôt partisan. Je souscrivais à la thèse de Laurent Bouvet, la thèse d'une tenaille identitaire, c'est-à-dire d'un tango, en somme, d'un tango dissymétrique entre d'un côté l'extrême droite et de l'autre côté un racialisme qui se vit comme une avancée ou comme un progrès. Et alors qu'il me semble que les deux discours s'entretiennent l'un l'autre, il me paraît qu'Éric Zemmour aujourd'hui en est là. Le paradoxe d'Éric Zemmour, si vous voulez, c'est que d'abord il plafonne. aujourd'hui. Ouais, il plafonne, 13, la reconquête plafonne. Et surtout, s'il arrive en finale, ce serait pour des raisons qui tiennent à la loi du spectacle. On a envie de voir le fight avec Macron. C'est pas au nom de ses idées. Il arriverait épuisé et nanti uniquement du devoir de montrer un bon spectacle.
J'avais dit quelque chose qui m'a interpellée, excusez-moi, je suis obligée de rebondir en tant que... Enfin, on a eu une prof de philo à Marseille, Madame Patrice, à qui je rends hommage, qui a dit une phrase...
C'est bien de donner son nom.
Bien dans le micro.
Madame Patrice, qui a changé le cours de la vie de beaucoup d'enfants, parce qu'on était des enfants, quoi, des grands adolescents, qui nous a appris que le véritable respect était dans le débat et pas dans l'écrasement. Et cette phrase, à 17 ans, dans ma classe, y compris dans les quartiers populaires, elle nous a déstabilisés, elle nous a dit, vous savez les enfants, vous venez de culture où quand quelqu'un est âgé parle, il a forcément raison. Non, si vous pensez qu'il a tort, il faut le dire et il faut argumenter. Et cette phrase a changé nos vies, parce qu'effectivement, il faut être en capacité de se dire nos différences, de les accepter et de les respecter. Ça a été la clé, en tout cas pour moi, et c'est ce qui a défini tout le reste de mon être, tout simplement.
Mais c'est dire toujours à quel discuter. Point, merci de raconter voilà. Ça, c'est dire à quel point non, faire de la philo, c'est quand même... La philosophie est une discipline merveilleuse pour cette raison-là. Elle produit, non pas des lieux communs au sens de banalité, mais des territoires communs qui sont des espaces pacifiés.
Plus généralement, Raphaël, les humanités, les professeurs de littérature, d'histoire et philosophie, à qui aujourd'hui on prive, justement, dont on prive la possibilité vis-à-vis de tous ces élèves de pouvoir faire leur travail correctement et de prendre ce temps-là que nous avons eu parce que nous ne sommes pas nés dans les années 2000.
Raphaël Enthoven, Krasnaya, moi, hier sur Google Maps, je suis allé chercher si c'était une ville, ça veut tout simplement dire
rouge.
Merci.
Krasnaya Plochad, en fait, c'est la place rouge.
Voilà, et c'est la couleur du livre. Merci Raphaël Enthoven, passé par les juges Krasnaya aux éditions de l'Observatoire.